Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
Après avoir contesté l'authenticité de ce document, il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était donc âgé de 25 ans.
Il n'a donc pas 18 ans, l'auteur présumé de l'attentat de vendredi voulait incendier les anciens locaux de Charlie Hebdo. Il ignorait que la rédaction du journal avait déménagé. Un niveau de défiance jamais atteint pour un garde des Sceaux. Alors qu'il présente pourtant un budget en hausse spectaculaire, Éric Dupond-Moretti continue d'être rejeté massivement par la magistrature. Gérant de bars et cafés ne décolère pas. À Lille, où il baisse le rideau en ce moment, une manifestation va avoir lieu dans quelques minutes. Les hôpitaux de Marseille sont-ils vraiment au bord de la saturation? Non, répond la PHM, il reste des lits. Mieux, le nombre d'admissions aux urgences baisse depuis le renforcement des mesures sanitaires. Dans ce journal également, les animaux sauvages bientôt interdits dans les cirques itinérants. Le premier débat télévisé cette nuit entre Donald Trump et Joe Biden. À 35 jours de la présidentielle, les Américains font campagne autrement. Coronavirus oblige. Et puis Roland Garros, journée très difficile pour les Français. Axel May sur place nous donnera tous les résultats. Le temps de demain, la France coupée en deux, pluvieux sur le nord, ensoleillé au sud et des températures en hausse, nous dira Anissa Haddadi. La Bourse de Paris a clôturé ce soir en très légère baisse de 0,23% à 4 832 points. Tous les détails à venir avec Claire Lemaître de boursier.com. L'interview Echo, 22h20, Emmanuel Duteil reçoit ce soir Cyril Linette, directeur général du PMU. Le PMU qui a réalisé tout simplement le meilleur été de son histoire. Enfin, on découvrira ensemble les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On en sait désormais plus sur l'auteur présumé de l'attentat devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, attaque qui a fait 2 blessés graves vendredi dernier. Lors d'un point presse cet après-midi, le procureur antiterroriste a dévoilé les derniers éléments de l'enquête. Il a confirmé, Justin Morin, que le suspect a menti sur son âge.
Oui, il a bel et bien 25 ans et non 18, comme il l'a d'abord affirmé lors de son arrestation. Les enquêteurs ont réussi à lui faire avouer qu'il mentait sur sa véritable identité, et ce depuis qu'il est arrivé en France il y a 2 ans. Pour le pousser aux aveux, ils se sont appuyés sur une vidéo et une photo retrouvées sur son téléphone portable. Sur la vidéo où il revendique son geste pour, je cite, se révolter contre les publications des caricatures de Mahomet, il se présente sous une autre identité que celle enregistrée par les services sociaux qui le suivaient jusqu'à présent en tant que mineur non accompagné. La photo de son passeport retrouvée par les enquêteurs a permis de recouper l'information. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard.
Après avoir contesté l'authenticité de ce document, il a finalement reconnu qu'il s'agissait de sa véritable identité et qu'il était donc âgé de 25 ans. En tout état de cause, sous ces diverses identités, le mis en cause était totalement inconnu de l'ensemble des services de renseignement.
Et pour le moment, aucun signe de radicalisation n'a été découvert, ni d'allégeance à un quelconque groupe terroriste.
Justin, on a aussi appris qu'il comptait incendier ce qu'il croyait être les locaux de Charlie Hebdo.
Oui, il l'a aussi avoué. Sur Internet, il a fait des recherches pour trouver l'adresse du journal, sans savoir que la rédaction avait déménagé. Il a aussi effectué des repérages. Les policiers ont retrouvé dans son sac des bouteilles de White Spirit, des chiffons et un marteau, prévu au départ pour entrer par effraction dans les locaux. Mais finalement, il a changé ses plans au dernier moment.
Merci Justin Morin. 29 personnes ont été placées aujourd'hui en garde à vue pour financement du terrorisme. Ils sont suspectés d'avoir injecté des fonds dans un réseau bénéficiant à des membres d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Syrie. Qu'il semble au loin, le temps où Akitator faisait trembler les prétoires. Depuis quelques jours, ce sont plutôt les magistrats qui ébranlent l'autorité du garde des Sceaux. Et pourtant, Éric Dupond-Moretti a décroché un budget inespéré et inédit pour la justice, mais rien n'y fait. Le ministre fait face à une fronde sans précédent. Chloé Triomphe, c'est simple, les initiatives anti-Dupond-Moretti se multiplient ces derniers jours dans tout le pays.
Oui, vraiment pas de chance pour un ministre qui vient de décrocher plus de 8 milliards de budget, soit une hausse de 8% pour son ministère. Les siens ne lui font pas confiance. Une assemblée générale extraordinaire à Paris hier, des AG à Tours, Rouen, Chaumont, Lille et ailleurs, une tribune des 2 plus hauts magistrats de France, une demande de rendez-vous de la part de 4 magistrats parisiens. Mais quand la question de la confiance lui est posée tout à l'heure lors de la présentation de son budget, le garde des Sceaux est sur la défensive.
Écoutez, madame, que ceux qui critiquent continuent à critiquer. Voyez-vous ? Moi, je travaille. C'est tout ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, on parle du budget. Voilà 25 ans qu'on attend ce budget. On est allé le chercher avec les dents. Ça m'importe bien plus que ce que tel ou tel a pu écrire dans tel ou tel canard, dans tel ou tel chronique, sur tel ou tel plateau de télé. Voyez ? Ça ne m'intéresse pas, ça. Ça ne m'intéresse plus. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je n'enlève pas un mot de ce que j'ai dit. Pas un.
Voilà une réponse qui se veut donc basée sur des éléments concrets, sur des moyens en hausse, mais visiblement pas sur le dialogue.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Un homme a été mis en examen aujourd'hui pour le meurtre de sa compagne, tuée à l'arme blanche vendredi soir à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Il s'agit du 51e féminicide commis depuis le début de l'année. Et puis une enquête a été ouverte après le décès dimanche d'une femme enceinte à Saint-Jean-de-Liversay, en Charente-Maritime. Prise de nausées et de douleurs, son entourage a passé 3 appels au SAMU. Une fois sur place, les secours n'ont pas réussi à réanimer la jeune femme de 24 ans.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Il dénonce une dictature sanitaire. Restaurateurs et cafetiers ne digèrent toujours pas les mesures qui les frappent. Fermeture totale pour les uns, à 22h pour les autres. De Marseille à Paris, c'est toute une profession qui se mobilise, d'autant que les échanges avec le gouvernement tournent au dialogue de sourds. La réunion ce matin à Matignon n'a rien donné. Du coup, c'est dans la rue que cafetiers et restaurateurs entendent faire plier l'exécutif. À Lille, l'une des 11 métropoles où les bars ferment à 22h, une manifestation doit débuter dans quelques minutes. Écoutez ce que nous en dit Camille, la gérante d'un pub lillois.
On manifeste ce soir pour se faire entendre et pour montrer que ça concerne toute une chaîne. Les patrons de bar, les salariés, les videurs, enfin il y a déjà énormément de monde, plus bah, les gens qui nous livrent, nos entrepositaires, tout ça. C'est vraiment toute une chaîne que ça met en péril par rapport à nos activités nocturnes 22h. C'est pas, y a pas de point d'équilibre en fait, c'est pas rentable, on ouvre à perte. Le problème se pose la question derrière des aides de l'État qui, pour l'instant, en tout cas, ne sont pas au rendez-vous et ne nous permettent pas de subsister. On a une activité qui n'est pas à plein régime depuis le 2 juin puisque le protocole sanitaire nous impose beaucoup d'espacement et une capacité réduite. Mais ça, on joue le jeu, on l'entend très bien. On ne nie pas le coronavirus, encore une fois. Hein. Mais donc, on a une activité qui ne tourne déjà pas à plein régime depuis le 2 juin. On nous restreint une première fois à minuit et demi. On râle contre les minuit et demi, on nous met 22. Et là, on a l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut, on va fermer de toute façon. Enfin, c'est un petit peu le sentiment qu'on a. On a l'impression d'être pointés comme des vecteurs de coronavirus. On voudrait aussi qu'on reconnaisse que c'est pas chez nous qu'on contracte le coronavirus.
Témoignage recueilli par Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Une vingtaine de responsables de discothèques se sont enchaînés aujourd'hui aux grilles de l'Assemblée nationale. Boîtes de nuit qui ont interdiction de rouvrir depuis plus de 6 mois. Et puis c'est aujourd'hui que le tribunal administratif de Marseille examinait le recours déposé par le président de région contre la fermeture totale des bars et des restaurants à Aix-en-Provence et à Marseille. La décision est attendue demain à 15h. Marseille, où les autorités médicales ont fait le point aujourd'hui sur la situation sanitaire, et on est loin des messages alarmistes de ces derniers jours. Les lits de réanimation sont quasi pleins, c'est vrai, mais il y en a suffisamment pour faire face aux patients Covid et non Covid. L'objectif, Nathalie Chevance, c'est d'arriver à gérer ces deux flux.
Et pour l'instant, l'hôpital y parvient parce que la situation se stabilise depuis quelques jours. 168 patients atteints du Covid sont actuellement pris en charge, dont 46 en réanimation, et il reste encore des lits. Alors c'est vrai que 90% de la réanimation hors Covid est aujourd'hui pleine, mais les médecins arrivent en quelque sorte à jongler entre les malades Covid et non Covid. Résultat, seule une dizaine d'opérations non urgentes ont été déprogrammées et aucun transfert de malades dans d'autres régions n'a encore eu lieu. Tout cela grâce à un travail d'anticipation, explique le professeur Rossi, président de la commission médicale de la PHM.
Et c'est pas une histoire de panique ou pas de panique. Le système tient parce que les organisations ont été différentes de la première phase. On ouvre des lits de réa supplémentaires pour accueillir des malades Covid, mais aussi pour accueillir des malades non Covid, pour essayer d'éviter les déprogrammations ou les reprogrammation. Donc on gère de manière sereine, il n'y a pas d'affolement. Dans tous les cas, nous on se prépare à toutes les éventualités. Il faut être prêt, quoi qu'il arrive.
Alors pour le moment, le nombre de patients en réa pour le Covid ne diminue pas, mais le temps d'hospitalisation, lui, est plus court. Enfin, un autre phénomène donne aussi un peu d'air aux médecins. Il y a beaucoup moins d'admissions aux urgences depuis le renforcement des mesures sanitaires.
Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Dans l'ensemble du pays, 8000 nouveaux cas de Covid et 700 admissions supplémentaires à l'hôpital ont été recensées ces dernières 24 heures. Une épidémie qui impacte fortement les comptes de la Sécu. Le déficit cette année devrait atteindre 44 milliards d'euros et cela devrait persister dans les années à venir. Plus de 20 milliards de déficit à l'horizon 2024 selon les calculs du gouvernement. C'est à la fois un émerveillement pour les enfants et un crève-cœur pour les défenseurs des animaux. Les tigres, lions et éléphants, des cirques itinérants. Eh bien, Barbara Pompili, la ministre de l'écologie, a annoncé aujourd'hui vouloir mettre fin à tout cela. Les animaux sauvages vont bientôt quitter la piste aux étoiles, Virginie Salmen.
Oui, on ne devrait plus voir les 500 fauves, 6 éléphants et 2 hippopotames des cirques ambulants de France. Au total, ça représente 2500 animaux sauvages, selon les représentants des 80 cirques familiaux ambulants. Et ça ne concerne ni les cirques fixes, ni les spectacles avec animaux sauvages, mais ceux qui sont transportés de ville en ville dans des camions-cages. On ne devrait donc plus les voir sur scène, mais quand ? Barbara Pompili ne s'engage pas sur un calendrier. Elle aurait évoqué une transition en 5 ans, selon les représentants des familles de cirque.
De nouvelles pratiques également dans les delphinariums.
Oui, c'est la fin programmée des parcs d'attractions avec dauphins. C'est très clairement l'objectif dans un délai de 7 à 10 ans. La ministre annonce l'interdiction d'introduire de nouveaux dauphins ou orques dans les bassins et l'interdiction de reproduction des 29 dauphins et 4 orques des parcs français. Interdiction qui est loin d'être évidente à entendre le directeur du Marine Land d'Antibes, Pascal Picot.
Comment on les empêche de se reproduire? Quelle méthode doit-on appliquer? On ne peut pas stériliser les mammifères marins pour la bonne et simple raison qu'on ne peut pas les anesthésier. On attend de voir comment on va nous suggérer de faire, mais on fera que s'il y a un soutien des vétérinaires et scientifiques qui nous affirment que les méthodes à utiliser sont sans danger pour les animaux.
Alors les plus jeunes dauphins de ces bassins peuvent vivre encore au moins 40 ans. L'idée serait donc de créer des bassins en mer pour leur assurer de meilleures conditions de vie. Très coûteux selon la profession et les 8 millions d'euros de budget total des mesures annoncées aujourd'hui seront loin d'être suffisants selon les professionnels.
Et puis Virginie, finit également les élevages de visons qui servent à la fourrure.
Oui, il y a 4 élevages de visons d'Amérique en France. Ils devront fermer d'ici 5 ans. La profession, sous le choc, dénonce une influence des militants du bien-être animal jusqu'au sein du gouvernement. La ministre Barbara Pompili fait valoir, elle, que les Français sont majoritairement contre le commerce de la fourrure. 91% selon le dernier sondage IFOP.
Précision signée Virginie Salmen pour Europe 1. C'était le jour J pour les opérateurs. Début des enchères pour l'attribution des premières fréquences 5G. Orange, SFR, Bouygues Télécom et Free s'affrontent à coups de millions pour obtenir ces précieuses ondes qui divisent tant. L'opération devrait rapporter au moins 2,2 milliards d'euros à l'État. Et puis une bonne nouvelle sur le front de l'emploi, elles sont rares. L'usine PSA de Sochaux va recruter 250 intérimaires pour ramener sa production au niveau qui était le sien avant la crise du Covid.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est l'événement de cette nuit aux États-Unis. Premier débat télévisé entre les deux candidats à la présidentielle, Donald Trump et Joe Biden, ensemble sur le ring. Duel de septuagénaire où les coups bas devraient continuer à pleuvoir. À 35 jours d'une élection sous très haute tension, c'est en tout cas une drôle de campagne que vivent les Américains. Pandémie oblige. Illustration avec ce reportage dans l'Ohio signé Xavier Yvon.
Des tables alignées sur un parking, une camionnette équipée de haut-parleurs et des candidats masqués. Bienvenue au drive-in distancié du Parti démocrate du Licking County. Les gens peuvent venir discuter sans sortir de leur voiture, explique Michelle, l'organisatrice. On voulait faire un événement en personne, mais de manière responsable. Une vieille dame s'arrête devant Alena Scherer, candidate au Congrès. Vous m'avez répondu sur Facebook, mais c'est bon de vous voir en vrai, dit Sally, regrettant de ne pas pouvoir faire du porte-à-porte pour soutenir la jeune démocrate. À la place, n'oubliez pas de liker nos posts sur les réseaux sociaux, lui explique la candidate. Comme ça, tous vos amis nous verront. La campagne sur Internet est encore plus importante en temps de pandémie. Et ça inquiète Alena Scherer, car dit-elle, le camp Trump est bien meilleur sur les réseaux sociaux. Le président est aussi le seul à faire des meetings en personne, malgré les risques. Si Laura condamne ces rassemblements, elle aimerait quand même voir Joe Biden un peu plus sur le terrain avec les gens. Il a besoin de connecter avec les Américains et pour ça, la militante compte beaucoup sur le débat télévisé ce soir. Newark, Ohio, Xavier Yvon, Europe 1.
Allez, on termine avec le tennis, direction la Porte d'Auteuil.
Roland-Garros, l'événement tennis est sur Europe 1.
Et on retrouve sur place Axel May. Axel, on peut dire sans exagérer que la journée a été noire pour nos tricolores.
Oui. 10 Français étaient en lice aujourd'hui pour l'instant. Seule Fiona Ferro a franchi le premier tour. Elle rejoint au deuxième tour Garcia Cornet, la jeune Burel qui s'était qualifiée hier. Fiona Ferro qui passe et Kristina Mladenovic qui déchante. Elle menait 5-1, balle de 7 pour elle lorsque l'arbitre n'a pas vu que son adversaire avait remis la balle dans le court. Après deux rebonds, l'Allemande Laura Siegmund a finalement gagné le 7, 7-5, puis 6-3 la deuxième manche, empochant donc le match. Une erreur d'arbitrage qui laisse un goût amer à Kiki Mladenovic. Écoutez-la.
C'est dommage, oui, vraiment, qu'il n'y ait pas de caméra, parce que c'est la première chose que je lui ai dite. J'espère qu'elle regardera le replay, mais malheureusement, elle va continuer Roland-Garros. Moi, je ne continuerai pas Roland-Garros.
Et elle, c'est bien sûr l'arbitre. Défaite aussi de la jeune Harmonitane, titulaire d'une invitation. Actuellement, Pauline Parmentier, 34 ans, dispute le dernier Roland-Garros de sa carrière. Elle affronte une Russe, Kudermetova. Et il y a deux jeux partout dans la première manche. Chez les garçons, aïe aïe, vous aviez raison Julien. Bye bye, Quentin Alice, Harold Maillot, Hugo Humbert, Grégoire Barrère, mais aussi Gilles Simon et Richard Gasquet. C'est simple, seuls 4 garçons seront présents au deuxième tour. Du jamais vu depuis 20 ans, autant dire que c'est vraiment une sale journée, vous le disiez encore une fois, qu'ont passé les Français.
Une hécatombe donc. Merci Axel May en direct de Roland-Garros pour Europe 1. La météo, Anissa Haddadi, on espère qu'il va faire un peu moins noir que sur Roland-Garros. Eh bien non, le temps sera toujours pluvieux demain dans le nord du pays.
Oui, en particulier, Julien, sur la Bretagne, la Normandie, le Nord, les Pays de la Loire, le bassin parisien et les Ardennes. Là, le ciel est très couvert demain avec encore des averses toute la journée. Sur les côtes du Nord-Ouest, le vent du Sud souffle. Soyez prudents dans ce secteur. Plus au sud de Bordeaux, à Strasbourg, le ciel est couvert demain matin, puis le soleil arrive dans l'après-midi. Et alors au sud de la Loire, là, il fait très beau demain, dès le début de la journée. Attention tout de même au brouillard et aux nuages bas qui se dissipent rapidement. À part sur le quart nord-ouest, demain, il fait beau sur une grande partie du pays avec des températures encore plus douces. 2 à 4 degrés demain matin, 2 degrés pour Aurillac, 14 à Paris. Et puis dans l'après-midi, il fait encore plus doux. 16 à Brest, 18 à Nancy, 20 à Lille et Paris, 21 à Clermont-Ferrand, 23 à Toulouse et 25 pour Avignon.
Merci Anissa Haddadi. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse top à Wall Street avec Claire Lemaître de Boursier.com qui vient d'entrer dans ce studio, suivi de l'interview Echo. Emmanuel Duteil reçoit ce soir Cyril Linette, directeur général du PMU, le PMU qui a réalisé le meilleur été de son histoire. A tout de suite sur Orbe.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h18 sur Europe 1 et c'est l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Claire Lemaître de Boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Julien.
Et la course à la présidentielle américaine s'est invitée à Wall Street ce soir.
Oui, pas de prise de risque. À quelques heures du premier débat entre Donald Trump et Joe Biden, le Dow Jones perd 0,48% à 27 452 points, moins 0,29% pour le Nasdaq qui termine à 11 085 points. Alors ce débat, c'est une bonne excuse pour être prudent. Difficile de savoir si Wall Street a un candidat préféré pour la présidentielle. En tout cas, les investisseurs redoutent un vote serré. C'est une hypothèse inquiétante si elle s'accompagnait, par exemple, de manifestations aux États-Unis. Du côté des valeurs, Fitbit, le spécialiste des objets connectés pour le sport, bondit de 5,6%. Selon l'agence de presse Reuters, l'Union européenne est sur le point d'approuver son rachat par Google pour 2,1 milliards de dollars, mais en échange de concessions en matière de concurrence. Et puis le pétrole rechute lourdement. Le baril de brut léger américain perd 4,1% sous les 39 dollars le baril.
Séance dans le rouge à Paris. Le CAC 40 aussi est resté prudent. Et ce, toujours en attendant le débat présidentiel aux États-Unis de cette nuit.
Ouais, le rebond de 2% hier a vite été oublié. Le CAC 40 perd 0,23%. Il termine à 4832 points. Les banques qui étaient en tête des haussières dépriment à nouveau, à l'image de BNP Paribas ou Société Générale. Et puis Air France KLM perd 2,8% et a touché un nouveau plus bas historique. Les analystes de HSBC conseillent d'alléger son portefeuille en actions Air France KLM. Les compagnies aériennes ont encore abaissé leurs prévisions de trafic pour cette année 2020. Le léger rebond constaté cet été a été stoppé net par la reprise de l'épidémie de coronavirus.
C'est beaucoup mieux en revanche ce soir pour l'entreprise Tarkett.
Tarkett qui fabrique des revêtements de sol. Les résultats annuels devraient être bons, en tout cas supérieurs aux attentes du marché. Et le titre Tarkett en profite et s'envole de 28%. Les marchés européens sont repartis en baisse ce soir. Francfort 7,03%, Londres moins 0,5%, moins 0,5% aussi pour Milan. Madrid perd 1,1%, Bruxelles moins 0,8% et moins 0,2% pour le CAC 40 qui clôture à 4832 points.
Merci Claire Lemaître, boursier.com et à demain.
À demain.
22h20 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Cyril Linette.
Bonsoir Cyril Linette.
Bonsoir Emmanuel.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général du PMU. On va y aller directement. Vous avez cartonné tout simplement cet été du côté du PMU.
effectivement, on ne s'attendait pas à avoir des chiffres records à ce point, puisqu'on a réalisé à la fois le meilleur été historique du PMU sur les paris hippiques, donc juillet-août, avec des enjeux en accroissement de 15% par rapport à l'année dernière. Donc c'est évidemment colossal, mais aussi, et là c'est encore plus inattendu, un mois de septembre canon, là encore, le meilleur mois de septembre historique avec des enjeux en croissance de 10%. Donc oui, on était assez optimiste parce que ça fonctionne bien depuis un bon moment, parce qu'après le confinement, ça a bien repris, mais pas à ce point, effectivement.
Mais comment vous l'expliquez de réaliser cette double performance ? On la rappelle, hein, meilleur été, meilleure rentrée de l'histoire du PMU.
On l'explique par plusieurs choses. Je pense très honnêtement qu'on bénéficie, alors malheureusement dans le marasme général, on bénéficie probablement d'opportunités. Vous savez, on a beaucoup parlé de l'épargne des Français, du fait qu'ils sont moins partis en vacances ou moins partis en vacances à l'étranger. On a une industrie des loisirs qui est en berne, hein, moins de cinéma, moins de sport à la télé, le foot moins visible, moins de paris sportifs aussi parce que les compétitions ont été pour la plupart retardées ou décalées. Donc on a évidemment bénéficié, il faut être tout à fait honnête, de cette opportunité-là. C'est une forme de refuge finalement pour la clientèle qui cherche une forme de loisir et le PMU est évidemment un loisir. Mmh. Après, on a aussi bénéficié, je pense qu'on a défendu d'arrache-pied notre produit, ce qui est le cas, je pense, de notre industrie et vraiment de manière très forte. Quand je dis notre industrie, je parle du PMU, mais aussi des sociétés de courses qui ont été capables de relancer les courses hippiques à huis clos dès le lendemain du confinement, en se débrouillant très bien à la fois avec les pouvoirs publics et puis avec les contraintes sanitaires. Et ça, c'était important parce que le PMU prend des paris sur les courses hippiques et s'il n'y a pas de course, évidemment, il n'y a pas de paris. Donc si les courses avaient repris mi-août ou mi-septembre comme d'autres sports plutôt que mi-mai, on ne parlerait pas du tout, évidemment, des chiffres d'aujourd'hui. On serait dans une situation, il faut le reconnaître, catastrophique parce que le PMU finance les 60 000 emplois de la filière.
Bien évidemment, mais quand vous dites, par exemple, que vous avez bénéficié du fait qu'il n'y avait pas d'autres compétitions sportives là depuis la rentrée, le championnat de foot, par exemple, de Ligue 1 est reparti, et de ce que vous dites, c'est que ça n'a pas entamé vos mises. Il y a semble-t-il, quand même un vrai retour sur le hippisme.
Non, le championnat a repris, mais il est quand même, en termes d'exposition médiatique, il est un peu en souffrance, ce championnat. Hein. Il y a un nouveau diffuseur, le temps qu'il fasse un peu sa maille et ainsi de suite, on en entend quand même un peu moins parler. Quand je dis défendre notre produit, c'est ça, c'est effectivement relancer les courses hippiques. Le PMU, par ailleurs, et ça c'était important, a investi, c'est une donnée très importante, on a lancé un plan de reprise et on a investi 15 millions d'euros dans notre réseau de distribution, nos fameux 13 000 points de vente, qui correspondent à 90% de notre chiffre d'affaires. Il fallait avoir, entre guillemets, un peu de culot pour lancer un plan de reprise à 15 millions d'euros en mai, à un moment où on perdait beaucoup d'argent puisqu'on restait sur deux mois complets sans chiffre d'affaires. Mais on l'a fait parce qu'on voulait motiver notre réseau de distribution, dans les contraintes sanitaires que l'on connaît, à rouvrir rapidement, à ne pas trop attendre et à reprendre les produits PMU. Et pour ça, les incitations financières sont évidemment le meilleur élément. Et puis, le dernier point, quand même, Emmanuel, je me permets d'insister, c'est que le PMU a retrouvé la croissance depuis début 2019, avec des choix stratégiques qui ont porté leurs fruits, et ça, on l'a senti avant le confinement, et c'est quand même toujours plus facile de reprendre, de revenir dans les rails, quand le cap, quand la route est tracée. Donc, c'est un élément, évidemment, de fond, qui a beaucoup compté.
Un élément important, et ce qui était dans votre stratégie, hein, c'était de faire revenir surtout les vrais joueurs, si je peux dire, entre guillemets, du PMU. Vous vouliez vraiment que les puristes reviennent. Est-ce que malgré tout, alors vous n'avez sûrement pas encore assez de recul, mais du coup, il y a eu de nouveaux joueurs qui sont venus jouer, qui n'avaient plus l'habitude de jouer au PMU parce que, bah, tout simplement, comme vous le disiez, ils n'avaient pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent depuis la sortie du confinement.
Alors, probablement pas en point de vente, parce que même si nos points de vente sont dynamiques, hein, dans les chiffres qu'on donne, c'est plus 8% en point de vente. Là, on peut imaginer que la clientèle en point de vente est la clientèle la plus passionnée, la clientèle la plus traditionnelle. En revanche, sur Internet, on a une augmentation des mises de l'ordre de 30%. Certaines journées, c'est même de l'ordre de 50%. Donc, c'est absolument colossal. Et c'est la première fois, parce que finalement, depuis 10 ans que les paris en ligne ont été lancés, le PMU... mais c'est en gros à peu près 10% des mises qui sont jouées sur Internet. Ça reste un produit majoritairement de points de vente. Là, on voit effectivement, on a 20 000 nouveaux comptes qui ont été ouverts pendant l'été. On a une augmentation du nombre d'actifs, une augmentation du nombre d'enjeux par actif. On voit un dynamisme sur le online, sur le e-commerce qu'on n'avait jamais constaté jusqu'à présent. Il est probable, même si encore une fois, il est un peu tôt pour le dire, que dans ces ouvertures de comptes, on a aussi effectivement une part importante de nouveaux clients. C'est évidemment un élément essentiel.
En revanche, qui aurait dû être un gros moment de fête, hein, c'est le prix de l'Arc de Triomphe qui va se courir ce dimanche. Comme à Roland-Garros, hein, puisque ça se passe juste à côté, vous c'est à l'hippodrome de Longchamp. Il n'y aura que 1000 spectateurs. Je crois que l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, il y avait 40 000 spectateurs au même moment. Ça reste quand même, certes, un bon été pour les paris, mais c'est beaucoup moins festif dans les hippodromes quand même.
Ah oui, alors ça ne va rien changer en termes de paris, hein, parce que les paris sur hippodrome, c'est entre 1 et 2% du total du PMU, donc ça ne sera pas, même pour le prix de l'Arc de Triomphe, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'impact négatif sur les enjeux. Mmh. Mais bien évidemment, le PMU s'appuie prend appui sur un sport et un spectacle qui est quand même fait pour être couru devant du public. Et l'Arc de Triomphe est un événement absolument magnifique au galop, comme le Prix d'Amérique en est un superbe au trot. Le voir courir devant 1000 personnes, qui seront aussi majoritairement d'ailleurs des professionnels, parce que les chevaux doivent être accompagnés, c'est évidemment un crève-cœur pour les sociétés de course hippique qui organisent la compétition, puis pour l'ensemble de l'écosystème. Mais je pense néanmoins, tout le monde s'est adapté, comme on le fait depuis 4 mois, l'enjeu essentiel pour la filière hippique, c'était que le PMU sauve son année.
Et est-ce que pour ceux qui ne le sauraient pas, ce que vous gagnez, vous le reversez justement à toute la filière?
Voilà, et là, on va, même si on craint évidemment à nouveau un resserrement des contraintes sanitaires sur nos points de vente, sauf catastrophe, sauf nouveau confinement, ce qu'on peut se dire à ce stade, c'est qu'on va sauver l'année, et ça, c'était quand même pas gagné. Et ce qu'on peut aussi se dire, c'est que ça démontre qu'on est structurellement sur une bonne tendance, renforcée par la dynamique du online, qui ne peut que perdurer dans les années qui viennent, et ça, c'est très porteur.
Eh bien, un grand merci Cyril Linette, le directeur général du PMU, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve demain à 22h20.
Merci beaucoup Emmanuel Duteil, interview à retrouver comme chaque soir sur notre site europe1.fr. Restez avec nous, dans un instant on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. 22h29 sur Europe 1 et voici donc ce que vous pourrez lire demain à la une de vos journaux. Bien-être animal, sauver Willy, s'interroge Libération. Le tout, vous vous en doutez, avec un orque en photo. Critiqué pour son inaction environnementale, le gouvernement a annoncé aujourd'hui une série de mesures. On vous en parlait dans le journal. Interdiction progressive des animaux sauvages comme les éléphants, les lions ou encore les ours dans les cirques itinérants. Fin de l'élevage de visons et de la reproduction des dauphins en captivité. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'exécutif n'a pas abordé les questions de la chasse ou de l'élevage, ajoute Libé. Du côté de l'opinion, on s'intéresse pour nos assiettes. Adieu souveraineté alimentaire, titre le quotidien libéral. Et oui, contrairement aux idées reçues, notre pays n'est plus souverain en ce qui concerne les fruits et légumes. Les importations dépassent désormais les exportations. En l'an 2000, la France comptait 145 000 hectares de vergers, d'abricots, de cerises, de pêches, de prunes, de poires et de pommes. 19 ans plus tard, cette surface était tombée à 87 000 hectares, soit une dégringolade de 40%. Et tout cela ne va pas s'arranger. 30% des pommiers français ont plus de 20 ans, c'est leur durée de vie maximale. Or, il n'y a pas de soutien pour les remplacer. Il en coûte 50 000 euros à l'hectare. Un investissement que beaucoup de producteurs ne feront pas tant le contexte est devenu peu propice. À lire donc demain dans l'Opinion. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien.
Vous allez bien ?
Ça va parfaitement bien.
Bon, 3921 pour vous appeler, pour venir témoigner dans votre libre antenne, et ce jusqu'à 1h du matin.
Exactement, et on se retrouve pour le flash à 23h, Julien. À tout à l'heure.